Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral Digne et dans l'émission Un pas de côté qui prend le temps de ralentir un peu, de réfléchir ensemble et d'écouter celles et ceux qui font bouger nos territoires. Aujourd'hui, on fait un pas de côté vers un sujet qui traverse toutes les familles, le numérique et la place qu'il prend dans nos vies. À la maison, à l'école, au travail, dans les poches, les écrans sont partout, ils nous relient, nous informent, mais parfois, ils s'imposent un peu trop dans nos quotidiens. Alors, comment mieux vivre avec le numérique en famille? Comment accompagner les enfants, les parents et les professionnels sans jugement, avec bienveillance et des repères concrets? Pour en parler, nos deux invités, Claire Berger-Lallemand, je laisse vous présenter.
Bonjour, je suis coordinatrice des conseils numériques sur le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Et Mathilde Muneau.
Bonjour, donc moi je suis psychologue, neuropsychologue et docteur en psychologie. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le département avec les enfants, les adolescents et leurs familles.
Cette émission fait écho à l'événement « Vivre en famille avec le numérique » organisé à Digne-les-Bains ce samedi 11 octobre. La question du jour, c'est comment accompagner les familles et les professionnels pour mieux vivre le numérique avec bienveillance et équilibre? On y répond ce matin. Première séquence. Et avant de donner la parole à nos invités de manière concrète, on va d'abord parler sur cette première séquence des écrans en famille, avec quelques éléments de constat, parfois des tensions aussi qu'on pourra évoquer, mais aussi des pistes de réflexion qui sont déjà abordées dans cette séquence. Je vais laisser la parole et on va écouter un court témoignage, celui de Roman, qui a 13 ans, et qui nous parle assez franchement de son rapport aux écrans. Je lui ai posé quelques questions dans ce sens. Ça vient à poser le décor sur cette première séquence et cette émission dédiée au numérique et aux écrans. Si tu devais décrire ta relation aux écrans.
Actif, dépendante.
Ton téléphone, tu dirais que c'est plutôt ton meilleur ami ou ton meilleur ennemi?
Mon meilleur ennemi.
Pourquoi?
Parce que je passe trop de temps dessus et je profite pas avec les autres.
Si on t'enlevait ton téléphone une journée entière, qu'est-ce que tu ferais?
Je sais pas, j'irais dehors et j'irais avec mes amis.
Imagine un défi famille sans écran. Combien de temps tu pourrais tenir?
4 jours.
Si tu devais trouver un moment sans écran, qu'est-ce que tu aimerais faire en famille?
Des jeux de société, juste se parler, ou faire de la discute.
Alors, voilà quelques mots de Roman, 13 ans, qui, je la remercie, s'est prêté au jeu. Moi, je trouve dans cet extrait qu'elle est assez lucide, parfois même un peu sévère, un peu négative autour de son usage des écrans, mais peut-être aussi pleine de justesse et elle propose des solutions qui sont, on y reviendra peut-être avec vous Mathilde, mais qui sont peut-être un peu radicales, 4 jours sans écran. Mais en tout cas, elle le propose, ça vient d'elle, hein, j'ai aucunement orienté sa réponse. On peut se dire aussi que beaucoup d'adolescents, comme elle, peuvent ressentir ce type de choses. Il y a un mélange peut-être... d'agacement, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas de culpabilité aussi qu'elle peut ressentir et d'envie que ça change, en tout cas dans son expression. Il y a toute une partie que j'ai pas forcément décidé de publier là, mais il y avait d'autres sujets aussi qui montraient qu'elle avait envie que les choses changent, notamment au sein de la famille. Et justement, pour poser le décor, on commence avec vous, Mathilde Muneau. Parlez-nous un peu de votre métier tout d'abord, et puis quand vous entendez Roman, qu'est-ce que cela vous inspire?
Alors, moi, j'accompagne effectivement les familles dans des problématiques qu'ils peuvent rencontrer avec leur enfant ou leur adolescent. Et je constate, oui, depuis, je dirais, après Covid, hein, une augmentation des questionnements autour de la place du numérique au sein de la famille, qui va créer beaucoup de conflits. Et qu'à la fois les parents, mais aussi les enfants et les adolescents vont avoir du mal à réguler. Et donc, ils vont venir un petit peu vers moi m'apporter ces questionnements-là. Alors, le témoignage de Roman, je trouve, recouvre pas mal de choses que je peux entendre dans mon cabinet. Je dirais déjà cette ambivalence qu'on peut observer, qui peut être apportée. Elle dit qu'elle est à la fois active avec son rapport au numérique et en même temps dépendante. Donc, on peut vraiment avoir l'impression que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Comment on peut être dépendant de quelque chose et actif en même temps. On sent que cette ambivalence la met mal. C'est pas trop comment arriver à se positionner. Et après, il y a cette culpabilité, Charlie, que vous avez pointée, qu'on sent fortement parce qu'elle dit qu'elle qu'elle passe trop de temps dessus. Hein, il y a quelque chose qui est hors de contrôle et qui, certainement, voilà, provoque ce qu'on appelle une dissonance cognitive. J'ai conscience que ce n'est pas bon pour moi, mais je ne peux pas faire autrement. On entend aussi son besoin de faire autre chose avec la famille, donc de profiter des autres aussi, de ses pères, de ses copains, et que l'écran lui prendrait un petit peu ce temps-là, effectivement.
Et elle trouve des solutions par elle-même, c'est-à-dire que moi, j'ai fait aucune proposition au moment de l'interview. C'est elle-même qui propose d'aller dehors, de rejoindre ses amis, de parler avec ses parents. Donc, quelque part, il suffit de pas grand-chose pour trouver des solutions, a priori, pour réguler ce temps d'écran chez les ados, mais chez les jeunes en particulier, quoi.
On entend aussi peut-être que c'est quelque chose qui peut lui manquer, finalement. Que l'écran prend cette place-là, et que si l'écran n'était pas là, bah, elle pourrait plus profiter de sa famille. Elle parle de discute. Hein. Elle, son besoin, c'est vraiment d'échanger avec sa famille, et que peut-être que les écrans prennent ce temps d'échange qu'elle a plus quand elle est chez elle, quoi.
Pour amener sur quelque chose qui a été officiellement publié, c'est le rapport enfant et écran à la recherche du temps perdu, qui dresse un tableau pour partie assez alarmant quand même sur la situation, même s'il y a des solutions, il y a des pistes clés. Est-ce que selon vous ce rapport est fidèle à la réalité au travers de ce qu'on vient de se dire notamment, la réalité que vous traversez dans vos accompagnements? Et
alors oui, je trouve qu'il est intéressant ce rapport parce qu'à la fois, bon, il a été réalisé par des experts qui sont de tous les domaines, parce qu'effectivement on a des experts de l'enfance avec un professeur de développement, on a aussi des experts du droit quand même, on a l'éducation nationale parce qu'on a des experts du numérique qui sont aussi présents et qui font effectivement un constat sur l'impact des écrans sur la santé physique, psychologique et cognitive des enfants et des adolescents. Donc je le trouve assez clair là-dessus. Et comme vous l'avez dit, Charlie, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas à un constat alarmant. C'est juste, voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'on a un consensus scientifique là-dessus. Et par contre, il propose des solutions. Donc on a un ensemble de préconisations qui sont vraiment intéressantes. Pas que pour les parents, d'ailleurs. Hein. Des préconisations à un niveau politique, à un niveau de l'État aussi. Hein.
J'y reviendrai dans les trois leviers. En tout cas, il y a une grande partie d'ordre plutôt de la loi, du cadre au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux notamment, mais pas que. Sur les constats qui sont posés dans le cadre notamment du rapport, c'est les écrans peuvent nuire au sommeil, au langage, à la concentration, surtout chez les plus jeunes. Les réseaux sociaux amplifient les risques d'anxiété, d'isolement, de harcèlement, en particulier chez les ados. Le rapport parle aussi d'une marchandisation de l'enfance à l'intention des enfants, qui devient une ressource économique captée par les plateformes. On sait, à partir du moment où c'est gratuit, on le paye quelque part, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est des constats que je trouve assez forts quand même au démarrage, effectivement. Ouais. Il y a quelques chiffres, et après on avance un petit peu sur le débat, mais 10 écrans par foyer en moyenne en France. Alors ça, franchement, bon, alors c'est vrai, peut-être qu'on s'en rend pas compte aussi, entre les mondes connectés, etc., que finalement, il y a quand même beaucoup d'écrans, mais en moyenne, 10 écrans, les 6-17 ans passent plus de 4 heures par jour devant écran hors temps scolaire, et 86% des 8-18 ans sont déjà sur les réseaux sociaux, souvent avant l'âge légal de 13 ans. Donc c'est des chiffres qui, en tout cas, ça permet aussi de poser le débat, de dire voilà, ça c'est la réalité des choses, on peut pas passer autrement. Puis des fois on le voit pas, en fait. Moi, quand j'ai cette réaction là en lisant 10 écrans au foyer, 10 écrans en moyenne en France, et ben en fait si, c'est la réalité, on les voit pas, quoi, en fait, les écrans. D'un point de vue de neuropsychologue, c'est ce que vous êtes, Mathilde, que se passe-t-il dans le cerveau des jeunes et des adultes quand les écrans prennent trop de place? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Comment ça fonctionne?
Alors, je vais faire un petit détour avant de vous répondre, parce que moi, quand j'ai lu le rapport, ce qui m'a surpris, parce que je savais qu'effectivement, il y avait des impacts d'un point de vue cognitif au niveau de la mémoire de l'attention, mais je n'avais pas conscience qu'il y avait des impacts aussi forts au niveau somatique, au niveau physique, parce que le rapport relève déjà un impact très, très important quand même sur la vue. Okay. Il parlait d'épidémie de myopie quand même, l'usage des écrans sur un œil. En développement, il faut savoir que l'œil se développe, le globe oculaire, jusqu'à l'âge de 4 ans, et les fonctions visuelles jusqu'à l'âge de 20 ans. Et qu'après ce développement, c'est fait, en fait. Hein. Et le fait d'utiliser les écrans a un impact là-dessus, parce que la lumière bleue, du coup, l'œil n'est pas en capacité de la filtrer suffisamment, et ça impacte déjà la rétine. Et ça va rester longtemps. En Corée du Sud, pour exemple, il y a quand même déjà 7 enfants sur 10 qui sont myopes. Hein. Corée du Sud, je prends l'exemple, et c'est ce qu'ils prennent dans le rapport, parce qu'on sait qu'il y a vraiment beaucoup de consommation au niveau du numérique. En France, c'est déjà 4 sur 10. Donc ça, on sait déjà de sûr, et c'est vraiment un consensus scientifique, et moi, je ne le savais pas. Je l'ai vraiment appris avec ce rapport l'année dernière qui est sorti en avril 2024.
Donc ça, c'est une politique de santé aussi. C'est-à-dire que ça touche à la politique de santé qui aujourd'hui, à ce stade, rien n'est prévu quelque part pour ça, quoi.
Et on n'est pas informé, parce que moi, quand j'en parle aux familles, au cabinet, pour moi, c'est un des points qui est quand même important, parce que la vue, c'est quand même un point qui est, qui est vraiment important. Surtout que les lunettes pour les enfants, enfin, c'est contraignant. Hein, c'est voilà, c'est quelque chose qui est... Il faut les nettoyer, il faut penser à les mettre, il ne faut pas les casser. On ne peut pas jouer comme on veut avec des lunettes. Mmh. Et c'est la myopie, c'est la vision de loin. Mmh. Donc, c'est tout ce qui est extérieur, ce qui est jeu, etc. Donc, vu l'impact que ça, c'est une des premières choses que je vais informer les parents. Et effectivement, ils en ont pas conscience du tout. Ils ne sont pas du tout informés de cet impact-là. Au niveau somatique, il y a aussi un impact, et vous l'avez dit, sur le sommeil, parce qu'effectivement, l'utilisation des écrans le soir, la lumière bleue fait croire au cerveau, en quelque sorte, qu'on est encore en plein jour. Et du coup, il ne va pas produire l'hormone du sommeil, la mélatonine, pour arriver à dormir. Donc effectivement, on a, et ça on le voit, nos enfants et nos adolescents dorment de moins en moins.
Avec une réduction du temps de sommeil.
Une réduction du temps de sommeil, qui a un impact à la fois sur le développement physique, hein, mais aussi sur la mémoire, sur les apprentissages, enfin le sommeil, c'est vraiment la base du développement. Mmh. Le troisième impact, il est plutôt indirect, c'est au niveau de l'obésité. On voit aussi une augmentation de l'obésité en France, qui est liée à la sédentarité. Effectivement, le temps qu'on passe devant un écran, bah, c'est du temps qu'on passe à ne pas bouger. Et on voit aussi cet impact sur la santé, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau cardiovasculaire, etc. Je fais cet écart-là parce que, de ne pas
c'est
vous
pas
répondre directement.
Non, voilà. Non, c'est pas un écart. Et d'ailleurs, vous y répondez au travers de ce qui se passe dans le cerveau des jeunes. La question, c'était la question de base. On voit bien tout le lien qu'il peut y avoir sur les écrans, l'impact du sommeil, le fait d'utiliser les écrans un peu trop tardivement, ça veut dire que derrière, le cerveau, il n'est pas connecté pour se mettre en mode sommeil, effectivement. Donc, il n'y a pas de digression, il faut aller à l'essentiel. Quelles sont les premières clés que vous pourriez proposer aux familles pour remettre du dialogue et apaiser la relation aux écrans ? Est-ce qu'il y a un premier échange
Est-ce que je peux me permettre de répondre sur les deux autres points? Parce que finalement, je ne vous ai pas répondu.
Allez-y.
Le premier, pour continuer, parce qu'il y avait l'impact somatique, il y a l'impact psychologique. Je vais être un peu plus concise dessus. C'est-à-dire, surtout au niveau des réseaux sociaux, je vais cibler TikTok aussi. Hein, ouais. Et le problème des bulles algorithmiques, voilà. qui fait que, en fait, quand un enfant regarde une vidéo, le système est conçu pour lui donner ce qu'il aime, en fait. Et ça va l'enfermer par rapport à ça. Donc moi, j'ai des jeunes, par exemple, qui vont passer une période, les jeunes adolescents, une période fragile, hein, que tout adolescent peut rencontrer dans sa vie, et qui vont être amenés à regarder certains types de vidéos. Donc je vais penser, par exemple, aux jeunes filles qui vont se questionner sur leur corps. Mmh. Et à partir du moment où elles vont regarder des vidéos sur le poids idéal, qui va être à 30 ou 40 kilos, le système va leur proposer ce même type de vidéo, qui va faire qu'en fait, elles vont se dire, mais finalement, c'est normal de peser 40 kilos. Mmh. Et là, on va avoir un impact direct qui va développer parfois des troubles du comportement alimentaire derrière. Donc il y a un impact psychologique qui est fort parce que ça peut enfermer finalement les adolescents. Et le dernier impact, là je vous réponds directement, d'un point de vue cognitif, il est effectivement au niveau attentionnel. Je vais faire une petite information sur l'attention parce qu'elle est importante. Il y a deux types d'attention. Il y a l'attention qu'on dit exogène. C'est celle qui va être attirée par l'extérieur. Elle est automatique et involontaire. Elle vous permet de vous prévenir du danger. Donc en fait, là, s'il y a la fenêtre qui s'ouvre derrière vous, Charlie, automatiquement, vous allez vous retourner parce que c'est bizarre. Vous n'aurez pas besoin de vous dire, tiens, il y a la fenêtre qui s'ouvre, je vais peut-être me retourner derrière. Pas du tout. Et c'est vraiment automatique et vous allez vous retourner. Cette attention-là, elle est fonctionnelle dès la naissance. Le bébé est déjà prêt pour utiliser cette attention. On va dire dans l'histoire de l'homme, elle devait être là dès le départ aussi. L'autre type d'attention, c'est l'attention endogène. C'est celle que vous utilisez là, actuellement, pour m'écouter. Vous êtes obligé de fournir un effort pour m'écouter. C'est celle que les élèves, enfants ou adolescents, vont aussi utiliser dans leur classe. Là, elle n'est pas automatique. Il faut vraiment fournir cet effort-là. Les écrans, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils jouent sur l'attention purement exogène. C'est-à-dire que ça bouge, il y a du mouvement. Et là, on n'a pas besoin de fournir d'effort. Et du coup, on est automatiquement sur les écrans. C'est ce qu'on peut entendre chez les parents qui vont dire « Mais il a du mal à se concentrer en cours, mais il peut passer 3 heures sur son jeu sans problème d'attention. » Bah oui, parce que c'est pas la même. Sur le jeu, c'est de l'attention exogène, il fait pas d'effort. En cours, c'est de l'attention endogène. Le problème dans le développement de l'enfant, c'est que ce système est en développement dans les parties frontales du cerveau jusqu'à l'âge de 20-21 ans.
Oui, quand même.
Et donc de surentraîner l'attention exogène et de moins entraîner, voire de pas entraîner l'attention endogène, va provoquer un déséquilibre qui peut rester aussi à l'âge adulte.
Mais ça a un impact immense, effectivement, sur le développement de l'enfant et de sa façon à rentrer dans la vie active, quelque part, et dans la société, et à faire société. Ouais.
Complètement.
Vous parliez de ces modèles où, finalement, ils sont happés. Quelque part, on parle de culpabilité pour ces jeunes qui sur les écrans, mais pas que, d'ailleurs, il peut y avoir des adultes. Hein. Ils sont happés par un système qui est addictif, quelque part aussi, sur les vidéos qui vont leur correspondre. L'attention va être portée sur des sujets qu'ils ont en tête actuellement, etc. Et ça va continuer.
Alors l'aspect addiction, effectivement, elle est sur ces réseaux-là, avec les shorts ou les réels, qui vont apporter ce qu'on appelle un plaisir immédiat. Mmh. On a un système de récompense immédiat. La vidéo vous plaît, on a une récompense immédiate, une production de sérotonine qui va amener à vouloir continuer à consommer. La problématique aussi, dans la vie de tous les jours, c'est que c'est quand même rare d'avoir une récompense immédiate. Avec un bon gâteau au chocolat, mmh. oui, on va avoir une récompense immédiate. Mais la plupart du temps, ça nécessite quand même des efforts mmh. pour pouvoir avoir accès à cette récompense-là. Donc là, pareil, on a un système qui va être déséquilibré. Mmh. L'enfant et l'adolescent, lui, va avoir l'habitude d'avoir cette récompense immédiate et il ne voudra pas fournir cet effort-là. Je précise bien aussi qu'on parle de surconsommation d'écran. C'est pas mmh. quelque chose qui s'enclenche avec un temps raisonnable d'écran. Hein.
On y reviendra certainement sur ce temps raisonnable et sur les éléments positifs et concrets qu'on peut apporter. Qu'est-ce que vous proposez, pardon, je vais y arriver. Quelle première clé proposer aux familles pour remettre du dialogue et apaiser la relation aux écrans? On a abordé déjà tous ces aspects d'impact sur l'enfant, sur l'adulte. Avant de laisser la parole à Claire, quelques éléments là comme ça que vous pourriez, qu'est-ce que vous proposez de manière simple auprès des parents et des enfants?
Alors la première chose, c'est le constat. C'est regarder un petit peu quelle est sa consommation d'écran. Donc moi, j'encourage les familles, les jeunes à regarder donc sur les Android.
Donc, il y a un diagnostic.
On regarde concrètement sur les téléphones uniquement parce que c'est plus compliqué sur tout ce qui va être console ou usage d'ordinateur. Mais sur les téléphones, on a quand même un outil qui s'appelle bien-être numérique et contrôle parental que le jeune peut regarder sur son propre téléphone pour voir quelle est sa consommation d'écran. Donc moi, je le fais en séance et les jeunes sont surpris eux-mêmes. De leur consommation d'écran. Ils me disent « Ah bon ? Mais je ne pensais pas y passer autant de temps. » L'avantage de cette fonction, c'est qu'elle permet de voir aussi sur quelle application on passe le plus de temps. Donc c'est vraiment intéressant de commencer par ce constat où les jeunes eux-mêmes sont surpris et les parents aussi vont être surpris. J'encourage aussi les parents à regarder leur consommation avec ce système-là. Sur le système d'Apple, il est automatique et un temps d'écran, donc là c'est facile à trouver. Donc première étape, le constat. Sans culpabilité, on regarde un petit peu comment mon enfant gère ses écrans et comment moi, je gère aussi mes écrans.
C'est se rendre compte d'une situation.
Ouais. Première étape. La deuxième étape, c'est du temps de partage. Parce que finalement, les écrans, vous l'avez dit, il y en a à peu près 10 en moyenne dans un foyer. En fait, chacun va être un petit peu sur ses écrans, mais on ne sait pas ce que chacun fait sur ses écrans. Donc moi, j'encourage les parents à regarder un petit peu ce que les jeunes regardent, discuter avec eux, de pouvoir aussi faire des jeux avec eux, regarder quels jeux ils pratiquent sur les consoles, pour comprendre un petit peu leur monde sur ces écrans-là. Donc le premier grand conseil, c'est ce temps de partage autour des écrans.
Bon, merci Mathilde, on revient tout de suite, mais je laisse la parole à Claire, alors qu'on parle un peu de constats globaux et d'enjeux un peu élargis, mais aussi on a posé le décor avec Mathilde sur ce que ça peut faire sur nos jeunes. Parle-nous un peu du Hub du Sud que vous représentez aujourd'hui, et puis si vous souhaitez réagir au témoignage de Romane qu'on a entendu il y a quelques minutes également.
Alors, pardon. Donc le Hub du Sud, c'est une association qui est régionale, qui est mobilisée en fait sur des enjeux d'inclusion numérique depuis 2009, donc ça fait 15 ans que ça existe. Et elle est basée à Marseille, et en fait son objectif, c'est d'animer le réseau régional de tout ce qui va être médiation numérique. Notre travail consiste... à faire le lien en fait entre les collectivités et les acteurs de terrain, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des retours de terrain, et après on arrive à créer des comités de pilotage, des réunions et échanger avec tout type d'acteurs sur différents sujets dont la parentalité. Et par rapport à
au témoignage de Romane, ouais, est-ce qu'il y a des choses qui quelque part font écho chez vous sur dans votre travail de
Ça fait écho. Avant d'être coordinatrice, j'étais conseillère numérique. J'ai animé des ateliers auprès des enfants.
Alors, conseiller numérique, est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi consiste le métier ?
Alors, tout à fait. Conseiller numérique, en fait, c'est un dispositif qui a été créé par l'État en 2021 pour former en fait des professionnels à l'accompagnement sur la médiation numérique. Et l'objectif, en fait, c'est d'accompagner les publics, les différents publics, donc des enfants, des adultes, des personnes âgées, sur l'autonomie, en fait, avec les outils numériques.
Donc c'est ça, la médiation numérique.
C'est ça, la médiation numérique. C'est une des parties de la médiation numérique, c'est rendre autonome, en fait, pour que les gens puissent, en fait, récupérer un peu de pouvoir dans les actions qu'ils ont au quotidien, parce qu'on est de plus en plus numérique, de manière générale.
Et donc, en tant que conseillère numérique, vous avez rencontré ce
J'ai animé des ateliers dans des écoles, auprès de classes, et effectivement, ce que dit Roman, c'est ce qui ressort déjà, mais même en CM1, CM2, ils sont effectivement déjà sur les réseaux sociaux, ils ont déjà des smartphones, il n'y a pas forcément de contrôle parental, les parents ne demandent pas ou ne se renseignent pas tant que ça sur ce que font les enfants, parce qu'en plus, ils n'ont pas conscience de jusqu'où vont les enfants sur les téléphones. Et du coup, enfin voilà, Roman, je trouve que ça... Et alors, non, je trouve qu'elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a quand même une remise en question que j'ai pas senti chez tous et qu'on sent quand même une réserve dans son utilisation et un recul que j'ai pas senti chez tous les enfants que j'ai vus.
Il y a certaines choses que j'ai dit, j'ai pas forcément évoquées. Elle a fait ce diagnostic-là. Elle sait qu'elle est le plus souvent sur YouTube, par exemple. Elle m'a dit « Je suis le plus souvent sur YouTube » et c'est... voilà, elle a déjà fait ce regard-là. Alors bon, j'ai peut-être choisi entre guillemets celle qui avance un peu plus avec ses écrans. Mais on en parle de plus en plus aussi selon les écoles, les classes, etc. Donc justement, ça fait écho à ça aussi. Il y a des initiatives très concrètes pour accompagner les familles et les professionnels. C'est le cas du PAC Rentrée. Est-ce que vous voulez nous en parler, qui est coordonné notamment par vous à l'échelle locale, mais pas que. J'imagine que c'est quelque chose de plus collectif. Pouvez-vous nous présenter ce PAC et comment est née cette idée et qui en sont les partenaires pour illustrer cette action ?
Le PAC Rentrée, ça a été initié par la sous-préfecture de Castellane. Par Madame Bor, qui était la sous-préfète à l'époque, face au constat de tout ce dont on parle depuis le début de l'émission, d'un besoin d'accompagnement des parents, en fait. Et l'idée, ça a été de réunir différents acteurs autour de la table. Et donc, il y a eu la sous-préfecture, il y a eu la direction académique des services de l'éducation nationale. Donc, il y avait le DAZN qui était avec nous. On a eu la DRAN. On a eu du coup l'animatrice France Service qui a le même rôle que moi, donc d'animation de réseau des conseillers France Service sur tout le département, des agents France Service et moi-même du coup pour la partie conseiller numérique. Et l'idée c'était de proposer des outils clés en main pour que les médiateurs numériques puissent accompagner en fait les parents et les familles sur tout ce qui était question parentalité numérique. Et donc on a choisi deux axes pour l'instant. Il y a une partie prévention, donc comment accompagner les parents et leur donner des bonnes pratiques, même si j'aime pas, parce que ça sous-entend qu'il y a des mauvaises pratiques, ce qui n'est pas le cas, mais donner en fait les bonnes... donner des pistes de solutions pour accompagner les parents sur tout ce qui va être réseaux sociaux, cyberharcèlement, contenu inadapté, le temps passé sur les écrans, et comment lutter contre les fausses informations. Et la deuxième partie, ça va être... Un autre problème que vont rencontrer les parents, qui est beaucoup plus concret, c'est comment prendre en main les outils numériques du collège pour suivre la scolarité de leurs enfants. Parce que quand on arrive en sixième, on découvre Pronote, Neo, le NT et plein de mots que personne ne connaît jusqu'à la sixième et qui peuvent mettre en difficulté des parents pour suivre en fait la scolarité. Et c'est un des seuls moyens de communication avec les établissements en général.
Donc c'est ressorti cet outil sur lequel... On peut se saisir de cet outil, n'importe qui peut s'en saisir, en fait, c'est ça que je voulais
dire. Alors du coup, j'ai pas pensé à préciser que donc, le PAC Rentrée, c'est effectivement un outil qui est public. On a mis en place deux ateliers qui sont utilisables par des médiateurs et qui peuvent du coup proposer à des familles, à des groupes, enfin voilà, à qui ils veulent. Et il y a également des flyers qui sont mis à disposition de qui le souhaitent, qui devraient être distribués dans les collèges aussi pour que les parents aient l'information qu'ils peuvent se faire accompagner par des France Services, par des conseillers numériques sur tout le département. Mais du coup, effectivement, c'est des outils qui sont clés en main et accessibles sur un site qui s'appelle les bases du numérique d'intérêt général et qui sont vrais. C'est un site qui est vraiment incroyable. Si vous vous intéressez à la médiation numérique, vous avez plein de ressources.
Donc là, on est sur de la prévention et sur de l'usage aussi en direct. On a parlé d'accompagnement et de constat aussi. En fait, on est à la fois sur la prévention. J'ai l'impression que ça va tellement vite que, en tout cas, c'est le regard que vous me donnez là, c'est que ça va tellement vite qu'on est obligé de prévenir encore plus fort aujourd'hui, mais aussi dans l'utilisation et outiller les personnes qui utilisent le numérique, mais qu'aussi d'ores et déjà, il faut accompagner ce changement parce qu'il y a un impact très fort de l'utilisation des écrans dans les foyers. On va se faire une petite pause musicale. Justement, vous restez avec nous. On marque cette petite pause avec Soprano et son titre Mon Précieux, qui est une musique qui date un petit peu, mais qui illustre assez bien l'utilisation du smartphone en général.
Me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens. Dans quelques feux, je crie. Au boulot, on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris. Mes yeux dans tes applis, baby.
Secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts. Mes gosses font plus toboggan, ils préfèrent jouer. Toi, baby. Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris. Mes yeux dans tes applis, baby. Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Ton regard pixelisé m'a envoûté. Toi, mon précieux, mon précieux, mon précieux.
Vous n'avez pas vu vos amis depuis 2 mois. Votre vie est digitale. LOL.
C'était Soprano, mon précieux. Et si finalement notre vrai précieux, c'était le temps qu'on passe plutôt ensemble. Donc ça, ce matin, eh ben, on passe du temps ensemble pour parler des écrans et du numérique. Pour cette deuxième séquence, on va parler de vivre en famille avec le numérique, accompagné sans juger. Alors, de manière très concrète, avec l'actualité du moment, ce samedi à Digne-les-Bains se tiendra la journée Vivre en famille avec le numérique dès 10h. Au Palais des Congrès, c'est ça, Claire ?
Tout à fait. Ouais. C'est une journée qui a été organisée par l'UDAF 04, qui a souhaité rassembler en fait différents partenaires locaux autour de cette question qui est quand même assez importante.
Donc c'est une journée avec table ronde, des ateliers, des échanges pour les parents, les jeunes et aussi les professionnels, puisque ça peut être orienté aussi au travers des professionnels du numérique. On parlait du pack rentrée tout à l'heure.
Tout à fait.
Je voudrais juste revenir sur les leviers d'action évoqués aussi dans le cadre du rapport enfant et écran qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y avait trois leviers d'action que j'aimerais qu'on aborde aussi là, puisque au travers de l'événement Vivre le numérique en famille, ces leviers sont repris. On parlait d'enjeux plutôt nationaux, voire à d'autres échelles. Protéger avant de contrôler, c'est l'idée de venir bloquer un certain nombre d'applications ou d'encadrer la publicité et les contenus. Donc ça, là, quelque part, à notre échelle, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément faire. En revanche, il y a deux autres leviers d'action qui est pointé, en tout cas, que j'ai relevé. C'est la progressivité des usages, la notion de pas d'écran avant 3 ans, l'usage accompagné jusqu'à 6 ans, pas de smartphone avant 11 ans, des accès restreints aux réseaux sociaux avant 15 ans. En tout cas, c'est des limites qui sont données. Alors, elles peuvent être contraignantes ou pas, mais en tout cas, elles sont posées à cet endroit-là, au regard des constats qu'on a pu faire aussi sur l'impact en termes de santé, notamment. C'est pour ça qu'il y a aussi cet événement qui est proposé. Pour moi, il y a le côté accompagner sans juger. Donc, il y a le former les parents, les enseignants, les acteurs de terrain. C'est l'esprit du pack rentrée et c'est aussi l'esprit de l'événement, de la journée qui se déroulera ce samedi. Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes ou en tout cas les temps forts de cet événement, Claire ?
En fait, c'est plein de petits temps forts les uns à côté des autres. Il y aura beaucoup d'activités différentes. En fait, c'est parler du numérique et vivre le numérique, partager le numérique entre les parents et les enfants, avec et sans numérique. Parce qu'en fait, le numérique, on n'est pas obligé d'être sur un écran pour en parler. Mmh. Et du coup, ça va être très ludique. Il y a beaucoup de jeux. Il y a des jeux de société, des jeux en bois. Il y a des jeux axés très numériques, des escape games. Il va y avoir des expositions. Il y aura aussi des professionnels qui seront là pour avoir des stands d'information et répondre aux questions directement. Et là, je pense notamment à la gendarmerie qui sera là avec la maison de protection des familles et au CDAD pour tout ce qui est justice. Parce que voilà, il y a aussi tout un aspect légal sur le numérique et quelles sont nos responsabilités quand on publie sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y aura évidemment la question du cyberharcèlement qui est quand même aussi un point qui est souvent remonté par les parents et une inquiétude qui est véhiculé au sein des familles.
Vous parliez de jeux, Claire. Est-ce qu'au travers du ludique, il y a une partie modélisation, impression 3D, création numérique, est-ce qu'au travers du ludique, est-ce que ce n'est pas un vrai levier de sensibilisation au travers de la manipulation et du ludique ?
Si, et puis ça revient sur ce que vous disiez, Mathilde, tout à l'heure, c'est bien de rentrer aussi dans le monde des enfants et de voir ce qu'ils font sur le numérique et de montrer aux parents que le numérique, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que les jeux vidéo et qu'ils peuvent en fait partager quelque chose ensemble. Et du coup, tout ce qui va être fabrication, art, numérique, enfin voilà, ça peut aussi permettre de partager quelque chose et de créer ou de recréer un lien entre les parents et les enfants et de recréer une base pour la suite.
On voit bien que ce n'est pas individualiste, c'est vraiment un travail collectif. Là, on le voit au travers du programme, de ce qu'on a évoqué déjà en première partie. Il y a toujours un intermédiaire ou en aparté, ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire qu'à côté de l'enfant, à côté de l'ado, il y a les parents, il y a l'éducation nationale, il y a les profs. Il y a tout un tas d'acteurs autour de l'enfant pour venir réguler, informer ou accompagner sur cette utilisation.
Plus on sera nombreux à véhiculer un message commun, plus on arrivera à avancer, selon moi. Enfin, on peut pas trop répéter, on peut pas trop accompagner les parents. Éduquer, c'est difficile, mais sur tous les sujets de la vie, enfin, pas que le numérique. Et le numérique rajoute une contrainte, des fois au niveau du matériel, que les parents maîtrisent pas, sont pas à l'aise. Et puis aujourd'hui, on a un peu honte quand on n'est pas à l'aise et qu'on sait pas faire. Enfin, et c'est difficile d'aller demander de l'aide. Enfin, et du coup, je pense que plus on aura des journées comme ça, vraiment en toute bienveillance et dans un contexte vraiment très agréable, pour aborder des sujets qui sont importants et aussi concrets, voilà, je pense que ça peut faire avancer les choses et aider facilement, enfin faciliter en fait, l'idée de facilitation.
Et justement, en quoi ce type d'événement permet d'accompagner sans jugement quelque part ? Pour vous, il y a quoi derrière derrière ça, le fait de...
Bah, je pense que le côté ludique permet en fait de faire venir aussi les familles, parce qu'on n'en a pas parlé, mais une des grosses difficultés qu'on a, nous, dans la médiation numérique, c'est de faire venir les parents, organiser des ateliers. Proposer dans les écoles, ça se fait. Faire venir des parents à des ateliers, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur qu'on leur redise encore « mais faut faire ci, faut faire ça, faut pas faire là ». Ou alors ils attendent une recette magique qu'on n'a pas, parce qu'en fait, il n'y a rien qui fonctionne chez tout le monde et pour tout le monde. Donc du coup, la grosse difficulté pour la médiation numérique, c'est ça, c'est comment on fait venir ces parents-là. Et donc créer une journée comme ça, c'est aussi un peu le prétexte pour dire bah, « maintenant que vous êtes là, on peut en parler ». C'est regardez, c'est facile en fait, on peut en parler simplement, on peut en parler avec transparence, vous avez des questions, on a peut-être des réponses, c'est que des professionnels qui sont formés à ça et qui font ça toute l'année. Et du coup, ça apporte quelque chose en fait pour les parents.
On le voit au travers aussi de l'identité visuelle, elle est très joyeuse, très positive, très colorée, voilà, mais en tout cas elle donne envie quoi, quelque part aussi, donc c'est peut-être réussi de ce côté-là. On verra si vous avez l'objectif et le nombre de personnes escomptées.
C'est notre espoir.
Voilà, samedi. Mathilde Muneau, vous avez consulté un peu le programme de l'événement. Qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant dans cette approche collective, ludique peut-être aussi, de ce type d'événement?
Alors moi déjà, ça m'a donné envie. J'ai regardé ce programme, ouais, et je vais y aller.
Donc c'est déjà gagné.
J'avais pas prévu, et je me suis dit, bah tiens, je vais y passer l'après-midi, parce qu'effectivement, déjà ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de tout pour tout le monde. Il y a vraiment le choix, vous avez offert une offre de choix pour des enfants tout petits, ça peut concerner aussi voilà, des enfants de moins de 3 ans, des enfants de maternelle, de primaire, ça concerne aussi les adolescents, le collège, le lycée, donc et ça concerne les parents, et ça va concerner aussi les professionnels, vous disiez spécialisés du numérique, mais les professionnels qui travaillent aussi avec l'enfance et l'adolescence, voilà, moi ça m'intéresse à ce titre-là. Donc déjà, voilà, moi je vais y aller alors que je n'avais pas prévu. En découvrant le programme, je me suis dit, tiens, je vais y passer l'après-midi. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça y est, ça ne concerne plus que les parents. C'est-à-dire qu'avant, on disait, voilà, les écrans sont mal gérés à la maison par les enfants, ils sont trop sur les écrans et c'est de la faute des parents. Mmh. Et c'est de la faute des parents et c'est à eux de se débrouiller pour que ça se passe mieux à la maison, tout seul. Et là, ça y est, je trouve que on s'est rendu compte que non, c'est pas tout seul que les parents peuvent gérer, qu'on est vraiment dans une question de société, que ça concerne tout le monde et que c'est pas que les parents qui sont responsables de ces problématiques d'écran. Et le fait qu'il y ait plein de partenaires, ça c'est un point voilà, que je trouve vraiment intéressant, ça déculpabilise. Et puis non, c'est pas que les parents, c'est vraiment la société qui est porteur de cette problématique-là. Et là, qu'il y a l'éducation nationale, voilà, il y a d'autres partenaires qui se mobilisent, ça c'est un point important. Et le dernier, bah, c'est que, comme vous l'avez dit, on peut parler du numérique, pas que en étant sur du numérique, et le fait qu'il y ait plein d'activités différentes qui soient proposées, et des alternatives aussi. Les jeux en bois avec Ludirunner, Ludironie, qui de montrer voilà, comment on peut passer du temps en famille autrement qu'avec un écran.
L'heure des comptes aussi, on rentre dans une médiathèque, donc c'est aussi quelque part quelque chose qui peut faire ce pas de côté sur le numérique en rentrant dans une médiathèque. Si on avance un petit peu dans l'émission et on arrive à la fin presque, Mathilde, est-ce qu'il faut poser, pour arriver sur de l'accompagnement, vous en parliez, est-ce qu'il faut poser des limites ou recréer du dialogue, ou c'est un peu les deux sur cet accompagnement parent-enfant?
Claire l'a bien exprimé tout à l'heure, là, en disant il n'y a pas de recette magique ou de solution miracle là, toute faite qu'on donnerait aux familles et pouf, d'un coup ça marcherait. Pourquoi il n'y a pas de recette magique? Parce qu'il n'y a pas deux familles qui sont identiques, hein. On est tous différents, on a tous des systèmes de fonctionnement différents. Par contre, il y a l'idée d'informer, c'est ce qui se passe à travers cette journée et cette émission là aussi. Et puis après, l'idée de donner un petit peu des clés, et puis après c'est aux parents qui vont décider quelles clés ils vont utiliser ou pas chez eux. Si on devait donner des grandes lignes, je trouve que les règles des quatre pas sont quand même intéressantes. Donc les règles des quatre pas, c'est déjà la première chose, c'est de sacraliser des temps sans écran. C'est-à-dire qu'on dit qu'à la maison, ce temps-là ne sera pas avec écran. Mais aussi bien pour les parents que pour les enfants. Donc notamment le temps de repas, par exemple. Le temps de repas est un temps de partage. Donc c'est un temps où la famille doit arriver pour partager. Il n'y a pas de téléphone portable. On ne va pas regarder le SMS qu'on a reçu. On va mettre ça de côté. Et puis, on ne va pas regarder les informations non plus. Pour deux choses importantes. La première, c'est communiquer avec un fonds d'information. C'est quand même compliqué. Et ça peut être très, très violent pour les enfants. On ne s'en rend pas compte. Mais les informations, il y a des images dont les enfants ne sont pas équipés, en fait, pour arriver à les encaisser. Autant à la radio, on peut entendre qu'il y a des morts, on peut entendre qu'il y a des guerres, mais l'enfant va se faire ses images avec ce qu'il est, avec ce qu'il connaît. Et par contre, à la télévision, au niveau des informations, il n'a pas le choix des images, on lui balance quelque chose qu'il n'est pas équipé pour digérer. Donc voilà, le premier pas, c'est de laisser ce temps de repas sur un temps de famille. Le deuxième pas dans les lieux de sacralisation, ça va être par exemple de créer des lieux où il n'y a pas d'écran. La chambre des enfants, par exemple, c'est important que ce soit un lieu où l'écran n'entre pas. Alors déjà parce que ça isole pas l'enfant, il se retrouve pas tout seul, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas où il va. Le fait d'être dans le salon et de regarder quelque chose sur l'écran de télévision, ça permet de savoir un petit peu à tout le monde qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je peux partager.
Et de le partager peut-être aussi.
Complètement. Mmh. Et de pouvoir regarder un petit peu et en discuter avec ses enfants. Le troisième pas, ça va être pour protéger le sommeil. Mmh. Pas d'écran avant de se coucher. Le soir. Donc effectivement, ça c'est important, on en a parlé par rapport au pic de mélatonine. Donc l'idée c'est on a mangé, on a fini le repas, on n'avait pas d'écran au niveau du repas, et bien on continue le reste de sa soirée sans écran. Alors après l'idée c'est de pouvoir proposer justement autre chose. Hein. C'est pas, t'as pas d'écran et débrouille-toi. Si t'as pas d'écran, bah tiens, elle parlait, Romane, de jeux de société.
De discussion.
De discussion aussi. Si on passait un temps à échanger, si on passait un temps autour des jeux de société.
Donc c'est un équilibre entre des limites, mais des limites qu'on adapte en fonction du foyer et de chaque famille, quelque part. Et ça peut s'inventer ensemble, ces limites-là. Elles peuvent se créer ensemble, justement, ces règles-là et ces limites-là.
Beaucoup d'échanges, effectivement. C'est pas l'idée. Alors, vous parliez de limites limitées ou... c'était quoi votre formulation, déjà, Charlie ?
Il y avait limité, il s'était limité.
Donc, de toute façon, rien n'est ni blanc ni noir dans la vie. C'est la nuance qui fonctionne. Et effectivement, elle est basée sur l'échange. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu... Avec le jeune, qu'est-ce qui peut être possible ? Alors, je parle du jeune parce qu'on a aussi l'importance de l'âge. Hein. C'est sûr que dans les conseils, ça évolue un petit peu pour l'âge de 6 ans. Donc, pas d'écran, effectivement, avant 3 ans, parce que là, au niveau du développement, ça a un impact même, j'en ai pas parlé, mais au niveau du langage, des performances scolaires, enfin, voilà, c'est vraiment important. Et avant 6 ans, ça évolue un petit peu parce qu'on n'est plus dans accompagner, on est sur le déconseiller quand même. L'idée, pour les plus petits, c'est quelque chose de différent. Dans les chances, c'est d'apprendre finalement à l'enfant d'être acteur, c'est ce que vous avez dit aussi Claire, d'être acteur de son écran, de choisir ce qu'on veut regarder, de choisir combien de temps on veut le regarder et d'être pas passif et captif comme l'a souligné Romane finalement de ce temps d'écran. Et après quand on sent que l'enfant est finalement trop captif, il va falloir les poser quand même ses limites pour l'accompagner parce que oui lui, on a vu avec la production de sérotonine, la récompense immédiate, lui l'écran le soir, l'adolescent, ça va être compliqué pour lui au départ de s'en séparer. Donc ça va être important d'imposer certaines limites, la limite de pas pendant le repas, la limite de pas avant le coucher, la limite de pas dans la chambre, ça c'est des choses qui sont importantes à imposer, tout en expliquant à son jeune que c'est pour sa santé qu'on met ça en place et qu'on va l'accompagner, on va lui proposer autre chose sur ces temps-là pour qu'il puisse arriver à gérer ça.
Donc ça dépend beaucoup aussi de l'usage, du niveau d'usage du public en face, des limites qu'on peut imaginer ou poser dans un dialogue. Claire, vous lui souhaitiez réagir
Moi, dans ce contexte-là,
quelques secondes avant de clôturer
l'émission. Il y a un outil que je trouve très très chouette qui s'appelle Faminum, que vous pouvez trouver sur Internet. Et en fait, ça permet d'élaborer une charte familiale de l'usage des écrans, mais tous ensemble. Okay. Parce que je vous rejoins complètement, il ne faut pas imposer à l'enfant ou à l'ado. Il faut expliquer et il faut l'aider en fait, à être maître de ça et de lui dire toi, qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu vois les choses ? Et de rediscuter. Si ça ne fonctionne pas, on peut essayer. C'est trop, c'est pas assez. Là, j'arrive pas à me limiter. Et du coup, Mais je pense que ce qu'il y a, et peut-être je m'arrêterai là-dessus, c'est de montrer l'exemple aussi. C'est-à-dire que si on passe sa journée sur les réseaux sociaux, ça va être compliqué de dire à son ado « non, t'y vas pas, c'est pas top ». Donc, vraiment faire ça tous ensemble et avoir à peu près tous les mêmes contraintes en faisant attention à l'âge, mais en montrant que c'est un effort que la famille fait et pas juste l'ado ou le jeune à qui on parle.
On le voit à travers vos échanges, vivre le numérique en famille, c'est d'abord une affaire de dialogue et de discussion au sein de la famille, de confiance, mais aussi d'événements ludiques et attractifs. Et de ce qu'on peut retenir aussi, c'est que c'est l'affaire de tous, pas que des parents et des enfants. C'est vraiment un enjeu de quelque part de société aujourd'hui, au travers l'utilisation des écrans et du numérique. Je remercie Claire Berger-Lallemand du Hub du Sud et Mathilde Muneau, docteur en neuropsychologie et chercheuse au CNRS.
Alors, je travaille en tant que consultante pour le CNRS, effectivement.
Consultante au CNRS pour leur éclairage complémentaire. Merci à Romane également pour sa parole sincère et pleine de bon sens. Je vous rappelle que l'événement Vivre en famille avec le numérique aura lieu ce samedi 11 octobre dès 10h à Digne-les-Bains. Des ateliers, des échanges, des espaces de ressources aussi ouverts à toutes et tous. On se retrouve très bientôt sur les ondes de fréquence Mistral pour un nouveau numéro d'Un Pas de Côté. Si vous avez des suggestions de sujets ou d'invités, écrivez-nous à digne@fréquencemistral.com. Merci à tous.
Merci, au revoir.
Merci.